Denis Roche, la question des cantos. Trois pourrissements poétiques. Pound, Cummings, Olson.
Denis Roche, pensez-vous que la forme requise par une littérature nationale est celle de la totalité? Car il est intéressant de noter que l'œuvre de Williams, de Cummings, de Pound ont pour projet ces formes totalisantes. Comment traduire le projet des cantos?
Il y a une ambiguïté dans les cantos, c'est que il me semble que Pound a voulu à la fois écrire son grand œuvre, faire sa divine comédie, faire son œuvre totalisante, comme vous dites, mais qu'en même temps, il a certainement voulu échapper, je ne sais pas si c'est totalement conscient ou pas, il a voulu échapper à ce que j'appellerais une lyrisation extrême de la nationalité américaine, de la nation américaine et de l'identité américaine. J'ai toujours l'impression que quand il s'agit de littérature américaine, qu'au fond, les écrivains font comme s'il était toujours nécessaire qu'ils remplissent l'histoire, au fond, l'histoire culturelle qui ne les a pas précédés. On a toujours l'impression qu'ils sont conscients de leur non-passé culturel, et que pour combler cette espèce de manque sur lequel habituellement les écrivains des autres pays s'appuient toujours quand ils écrivent, qu'il faut, comment dire, en faire plus et en faire trop toujours. Et finalement, la tentation du poète, bien sûr, par excellence, c'est de produire la grande œuvre lyrique qui fera parler la nation américaine. C'est probablement ce que Pound a voulu faire d'une certaine manière à travers la grande épopée gréco-romaine franque occitanienne troubadourienne, etc. comme s'il voulait par un très puissant amalgame récupérer ce passé comme étant celui de la langue américaine, alors qu'il ne l'est pas historiquement. Alors, comment lier des projets aussi différents que ceux de Williams, de Cummings, de Pound, et même d'Olson après? Je pense que Williams a voulu faire avec Patterson précisément la grande œuvre picaresque et lyrique qui est l'exaltation de l'Amérique moyenne. Ça, c'est sûr, il me semble que c'est idéalement le prototype. Je pense que Pound a voulu, d'une certaine manière, faire aussi la même chose à travers les cultures européennes, mais que, fondamentalement, le projet des cantos échappe à ce nationalisme. Je pense que c'est avant tout transparent dans l'entreprise globale des cantos. Les cantos commencent par des espèces de parodies lyriques très belles, très très classiques, de l'arrière-plan culturel européen. Et peu à peu, cet arrière-plan, devient plus récent dans le temps, jusqu'à coïncider avec le temps de Pound. C'est le moment des cantos pisans, à peu près, où brusquement la réalité tout à fait contemporaine et individuelle de l'existence de Pound prend le pas sur les citations culturelles anciennes. Et ensuite, après les cantos pisans, je crois qu'il se produit un phénomène assez curieux qui fait que Pound est évidemment aux prises toujours avec cette même dissemblance entre son histoire à lui qu'il raconte par bribes et l'histoire culturelle européenne, et que finalement la seule manière d'aller plus loin et de précéder un peu, si vous voulez, chronologiquement cette dissemblance, c'est d'aller peu à peu vers une rupture avec le signifié. C'est-à-dire que peu à peu les citations, les références, les connotations culturelles deviennent, enfin de bribe en bribe, si vous voulez, deviennent quelque chose qui est insaisissable comme signifié historique. Et peu à peu, on se trouve devant des lambeaux dont on sait que ce sont des lambeaux culturels du passé, mais qu'on ne peut pas identifier vraiment comme tels. C'est-à-dire que si on veut donner une explication des 20 ou 30 derniers cantos, historique et culturel, c'est à peu près impossible. On sait que c'est ça, mais on ne peut pas le relier précisément à telle ou telle époque ou à telle ou telle personne. Et, comment dire, ce qui est plus proche de Porn lui-même, de sa vie, de ses actions, glisse aussi comme ça de plus en plus vers des chaînes flottantes de signifiants. Et il y a vraiment un moment dans la section des cantos qui s'appelle Rock Drill, qui porte bien son nom, d'ailleurs c'est le forage de roche, c'est-à-dire qu'on n'a plus que, enfin en termes de géophysique, on n'a plus que des carottes comme ça d'espaces culturels qui sont sans lien les uns avec les autres, et on a une espèce de chatoiement final, de chatoiement politique culturel, mais impossible à identifier. Donc je crois que c'est, si vous voulez, à la fois Pond a réussi son œuvre globale, globalisatrice, et en même temps, vers la fin des cantos, il fait que l'écriture échappe totalement à l'arrière-plan culturel. Je pense que finalement, au-delà du rêve de l'identité culturelle américaine, Pond a montré la voie d'une échappée complète de l'écriture. Ça, c'est assez fascinant parce que les cantos se déroulent vraiment comme une trajectoire très très précise, sans exception, et où on va comme ça vers le dénouement du problème de l'identité américaine dans la littérature.
J'aimerais bien que vous nous parliez, Denis Roche, du rapport de Pond à Shakespeare.
Ça, je suppose que c'était un rapport très violemment entretenu dans l'idée de Pond. D'abord parce que dans sa mégalomanie, il s'identifiait certainement à ce qu'aurait pu être un Shakespeare américain. Je dirais même qu'il a poussé cette paranoïa assez loin, puisqu'il a quand même épousé une femme qui s'appelait Dorothy Shakespeare. Et que, enfin, ça serait trop beau que ce soit une simple coïncidence dans la vie de Pond. Que d'autre part, dans les cantos, ça et là, il est fait allusion à Shakespeare de façon très très précise. Et dans Rock Drill, précisément, il cite Shakespeare à un moment donné de curieuse façon en parlant de quelqu'un qui était probablement un collectionneur et dont il dit qu'il avait dans son coffre-fort les First Folios 2, et là il y a trois lettres, SHX. Et bon, il est évident que c'est Shakespeare. Je crois que c'est la dernière référence à Shakespeare dans les cantos. Et c'est curieux de voir que cette référence se ramène simplement à la contraction de l'identité de Shakespeare, qui ne devient plus qu'une onomatopée, Shix. Et au First Folios, qui est une expression qu'on pourrait traduire par les premières œuvres, les premiers volumes, mais qui est une expression propre à l'édition shakespearienne, qui ne s'utilise pas pour parler de l'édition d'un autre écrivain. Alors je trouve que cette espèce de double contraction très violente, là aussi est une façon pour Pond d'échapper à la culture du mot Shakespeare et à la culture de la lyrique Shakespeare qui est toujours sous-jacente, enfin dans toute la littérature américaine. C'est évident que c'est le grand-père mythique que les Américains n'ont pas pu avoir. Whitman n'a jamais joué ce rôle-là, Edgar Poe encore moins. Et la manière dont Pond échappe là encore vers la fin des cantos à ce problème est assez stupéfiante. Je veux dire, c'est vraiment le seul écrivain américain, à mon avis, qui ait vraiment découvert qu'il y avait un problème de langage qui allait très au-delà du simple problème de langue des États-Unis. Thank you.
Votre livre « Trois pourrissements poétiques » réunit Pound et le canto 100, Cummings et un poème extrait de Hay, Charles Olson et les Martins Pêcheurs. Comment situez-vous cette rencontre? Est-ce celle d'une modernité et comment la définir?
Oui, il y a une rencontre de modernité. Quant à la définir exactement, je ne sais pas trop comment. À l'époque, j'avais réuni ces trois auteurs et ces trois textes, précisément, dans une idée de caviardage du problème littéraire américain. Et un peu pour m'en débarrasser, et un peu comme provocation à l'égard des trois textes en question, pour voir jusqu'à quel point ces trois textes-là pouvaient se débarrasser eux-mêmes de ce problème. Enfin, j'ai essayé de faire jouer un psychodrame, si vous voulez, entre les trois textes. Le canto de Pound est un canto, comment dire, typique, enfin, de la série non classique, très représentatif de sa dernière tentative. Enfin, j'appelle la dernière tentative celle qui commence après les Cantus Pisans, si vous voulez. C'est-à-dire la période des années 50. Le poème de donc, si vous voulez, avec ce canto-là, je posais le problème global des Cantos de Pan. Avec Cummings, c'est un peu plus compliqué parce que d'une certaine manière, je crois que Cummings échappe à cette obsession des poètes américains d'inventer la grande langue lyrique américaine. Il passe pour être le poète, pour avoir été le poète le plus intellectuel, et lui s'en est pris, comment dire, c'est un peu l'inventeur du langage poétique américain. Dans le jeu, dans l'idée de jeu, qui est probablement pour la trajectoire de la littérature américaine une extrême offense. Je veux dire que les poètes américains n'aiment pas Cummings. Ça ne leur a jamais plu, ça leur a toujours paru être un joyeux rigolo, bon, très intelligent, un peu trop à leur avis, et qui mettait un peu un grain de sable dans l'engrenage. Et finalement, Cummings, je crois que ce qui m'intéressait chez lui dans certains types de poèmes, c'est qu'il rejoint un peu la tentative dernière des Cantos de Pound, c'est-à-dire qu'il va lui aussi, enfin, il emmène la langue anglaise. C'est très anglais, c'est pas tellement américain. Il emmène la langue anglaise vers un point de rupture au niveau des lettres. Enfin, ce que Pound fait au niveau des concepts, des mots, des idéogrammes, des pictogrammes, c'est-à-dire d'ensembles précis tout de même, dont il se contente d'enlever le contexte, Cummings le fait au niveau des lettres, simplement en abouchant des mots ou en coupant certains, de manière à ce que le texte lu à voix haute perde par moments son sens, comme si tout d'un coup, à travers des phrases très simples, très poétiquement simples, il y avait brusquement des chutes de sons, des effondrements de sons, ce qui n'est pas... Je veux dire, c'est vraiment le contraire de la littérature américaine, ça, qui joue toujours sur la longue phrase, sur la longue métrique, sur l'épopée. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que des musiciens, des chanteurs se soient intéressés à cet aspect-là de la langue de Cummings. Donc il y a une espèce de disruption voulue avec la lyrique américaine. Et puis alors chez Olson, c'est beaucoup plus complexe. Je ne crois pas que je puisse vraiment en parler comme il le faudrait. Simplement, on sent chez Olson, qui a été le disciple, disons, pratiquement le seul vrai disciple de Pound, qui a vraiment repris l'écriture poundienne et la connaissance qu'avait Pound de la littérature. Mais il l'emmène ça ailleurs, très bizarrement. J'ai toujours éprouvé un peu d'angoisse, finalement, à lire Olson. parce que j'ai toujours eu l'impression que, d'un côté, il ramenait la tentative de Pan très en arrière, vers une langue beaucoup plus classique, plus neutre, plus neutralisante. Et en même temps, Olson n'a pas pu s'empêcher d'éprouver une curiosité extrêmement bizarre pour un écrivain américain, pour des choses qui échappent totalement à la littérature américaine, par exemple les écritures d'Amérique centrale, Maya et autres. Il a, comment dire, alors que la littérature américaine joue complètement un rôle exotique par rapport à la culture européenne, on dirait qu'Olson a voulu, comment dire, montrer à la littérature américaine qu'il y avait plus exotique qu'elle, et que ce plus exotique appartenait à son passé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Il a, en ramenant la tentative de Pound vers un classicisme américain, il a quand même montré en transparence, à travers ce classicisme américain, très américain, que tout n'était pas joué et que c'était peut-être plus dangereux à jouer désormais. C'est toujours une très curieuse impression qui se dégage des textes d'Olson. C'est peut-être pas tout à fait transparent dans le poème que j'ai traduit, Les Martins Pêcheurs, parce que c'est un poème qui a l'air apparemment simple, mais qui en fait fait référence sans arrêt à des coutumes d'Amérique centrale, enfin à des choses étranges qui échappent totalement à la simple nomenclature, à la simple dispersion de la description poétique.